Il est 5h30 à Paris, une heure de moins en temps universel. L'actualité africaine, bonjour Pierre Boudias.
Bonjour Clotilde, bonjour à toutes et à tous. Les casques bleus resteront un an de plus dans l'est de la RDC. Le mandat de la MONUSCO est prolongé la nuit dernière par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Décision qui ne remet pas en cause le départ annoncé de la force de maintien de la paix. Le Rwanda n'est plus sous la menace du virus de Marburg. Kigali déclare la fin d'une épidémie qui aura fait 15 morts en un peu plus de 3 mois. Un bilan faible salué par les autorités sanitaires qui appellent à la vigilance. Paul Mayo Rafano Oharana est bien détenu de manière arbitraire à Madagascar. Confirmation d'un groupe de travail des Nations Unies saisi par ses avocats. Le gendarme franco-malgache arrêté en juillet 2021 pour tentative d'atteinte à la vie du chef de l'État. Et puis les autorités comoriennes accusées de traîner des pieds dans l'aide à Mayotte. La société civile dénonce la lenteur de l'acheminement d'eau et de nourriture après le passage de l'ouragan Chido. La présidence promet d'accélérer les livraisons. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a donc voté à l'unanimité la prolongation du mandat de la MONUSCO en RDC. Les quelques 14 000 casques bleus principalement déployés dans le Nord Kivu et l'Ituri, désormais engagés jusqu'en décembre 2025, 12 mois supplémentaires, alors que la force de maintien de la paix a déjà commencé à se retirer du pays à la demande de Kinshasa. Correspondance depuis les États-Unis, Lubna Anaki.
La résolution du Conseil de sécurité a été adoptée à l'unanimité et prolonge le mandat de la force de maintien de la paix en RDC jusqu'au 20 décembre 2025. Lors de cette réunion hier, les membres du Conseil ont insisté sur leur inquiétude quant à la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. La RDC continue de souffrir de cycles de conflits et de violences persistantes de la part de groupes armés étrangers et nationaux. Peut-on notamment lire dans le texte de la résolution. Le Conseil s'inquiète également des tensions persistantes entre la RDC et le Rwanda, que Kinshasa accuse de soutenir le M23. Le renouvellement du mandat de la MONUSCO intervient alors que la force a entamé son désengagement du pays et s'est déjà retirée du sud Kivu. Un retrait réclamé par le gouvernement congolais qui avait demandé un départ rapide avant de plaider pour un désengagement graduel et coordonné. Au dernier des comptes, il restait 14 000 militaires et policiers sur le terrain dans le cadre de la MONUSCO. Cette année supplémentaire devrait permettre de mieux organiser leur départ, même si pour le moment, aucune date n'a été fixée pour un retrait total. Lubna Anaki, New York, RFI.
Et dans ce contexte, c'est un nouveau revers qu'ont subi l'armée congolaise et ses supplétifs Wazalendo dans l'est du pays. Les rebelles du M23 revendiquent la prise de la localité de Bingi, située à 150 km au nord de Goma, dans la région du Nord Kivu. Les FARDC assurent s'être retirés de la ville pour protéger les populations et avoir empêché des tentatives de débordement de la milice soutenue par le Rwanda. Une retraite qui tombe mal pour Kinshasa, déjà confronté à l'échec du sommet présidentiel de Luanda, c'était le week-end dernier, et à une position ougandaise jugée trouble. Les deux pays pourtant alliés dans le nord de la RDC au sein de l'opération Shuga contre les djihadistes des ADF. Mais pour Kinshasa, la position de Kampala concernant l'autre conflit dans l'est du pays n'est pas claire, au point que cette semaine, la ministre des Affaires étrangères de la RDC a convoqué le chargé d'affaires ougandais pour l'explication et précision de Fessé Onesfor.
L'opinion congolaise se serait attendue à ce que les Ougandais déployés dans le cadre des opérations Shuja soient réactifs, qu'ils aident au moins les FARDC à faire front. Mais surtout, ce qui a semé le plus de doutes, c'est la série de tweets du chef d'état-major général de l'armée ougandaise qui a publié qu'il est prêt à en découdre avec les mercenaires blancs déployés à l'Est, alors qu'on sait très bien que ces mercenaires sont des alliés des FARDC. Cela n'a pas évidemment échappé au gouvernement congolais parce que la ministre des Affaires étrangères du Congo a convoqué le chargé d'affaires ougandais pour lui demander d'éclaircir la position de l'Ouganda par rapport à la crise congolaise. Ce qui indique que le doute s'est installé jusqu'au plus haut niveau.
Onéfort Sematumba, chercheur à l'ICG, il était au micro de Nemo en Peace. La situation sanitaire, cette fois au Rwanda, elle s'améliore largement en ce qui concerne le virus de Marbourg. 42 jours après le rétablissement du dernier patient, le gouvernement a officiellement déclaré hier la fin de l'épidémie de ce virus proche d'Ebola. Il provoque comme lui une fièvre hémorragique, déclarée le 27 septembre. Cette première épidémie de Marbourg jamais enregistrée dans le pays se termine avec un bilan de 66 cas confirmés et de 15 victimes. Précision à Kigali, Lucie Mouillot.
Avec 22,7% de décès parmi les cas confirmés, le taux de mortalité au Rwanda est l'un des plus faibles jamais enregistrés dans une épidémie du virus de Marbourg. Un bilan dont il faut tirer les leçons, explique le docteur Brian Chirombo, représentant dans le pays de l'Organisation mondiale de la santé.
Grâce à une gestion des cas décisive et une stratégie globale, les pertes en vie humaine ont été considérablement réduites et la transmission communautaire stoppée. Cet effort unifié, porté par une détection rapide, un traçage des contacts et l'isolement, a établi une nouvelle référence régionale.
Le combat contre Marbourg ne s'arrête pas là. Selon les autorités sanitaires, l'épidémie a commencé dans une mine à proximité de Kigali où des chauves-souris, hôtes naturels du virus, l'ont transmis au cas index. Objectif désormais, surveiller ces sites à risque partout dans le pays, le docteur Sabine Zanzimana, ministre de la Santé.
Nous avons formé de nouvelles équipes et stratégies. Nous ajoutons également de nouvelles technologies pour suivre ces chauves-souris avec des GPS et connaître leurs migrations et mouvements et s'assurer de mettre fin aux interactions avec les hommes.
Autre enjeu, améliorer les systèmes de détection dans les urgences et centres de soins intensifs, alors que plus de 80% des cas au Rwanda sont des membres du personnel soignant des deux établissements à avoir pris en charge les premiers patients. Lucie Mouillot, Kigali. RFI.
La base militaire française de Djibouti appelée à se réinventer, ce sont les mots d'Emmanuel Macron venu fêter Noël avec les quelques 15 000 soldats positionnés dans ce pays qui borde le golfe d'Aden. Il est désormais attendu en Éthiopie pour rencontrer le Premier ministre Abiy Ahmed, le chef de l'État français qui veut faire de Djibouti un point de projection pour des missions en Afrique. Alors que Paris a dû récemment évacuer ses soldats de nombreux pays sahéliens, 120 militaires français ont d'ailleurs quitté le Tchad hier, premier contingent à plier bagages. Après que N'Djamena ait mis fin au partenariat militaire avec Paris, c'était le 28 novembre dernier. Le Tchad, où les médias en ligne sont de nouveau autorisés à produire et diffuser des contenus audiovisuels, décision de la Cour suprême du pays qui suspend ainsi un arrêt de la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel pris au début du mois. Un arrêt contraire aux droits des citoyens à l'information, selon la plus haute juridiction du pays. Une quarantaine de titres en ligne avaient observé récemment une journée sans presse et menaçaient de ne pas couvrir les élections législatives et locales du 29 décembre prochain. Un ex-militaire français détenu de manière arbitraire à Madagascar, Paul Mayo Rafano Arana, est franco-malgache, ancien officier de la gendarmerie française, et il est détenu depuis juillet 2021, condamné à 20 ans de travaux forcés pour tentative d'atteinte à la vie du chef de l'État. Des conditions de détention qui n'ont cessé de se détériorer, dénoncent ses avocats. Justement, ils ont été entendus par le groupe de travail des Nations Unies sur la question, et il vient de confirmer que cette détention est illicite et même assimilé à de la torture. L'organisation demande à Madagascar de libérer Paul Mayo. Et selon Clara Gérard Rodriguez, l'une de ses avocates, cette décision pourrait lui permettre de retrouver la liberté.
Ce que ça signifie concrètement, c'est que le groupe de travail demande à Madagascar, au gouvernement malgache, de libérer immédiatement M. Paul Mayo, de le remettre en liberté et de lui ouvrir le droit à obtenir une réparation, donc une indemnisation, une compensation financière pour le tort que lui a causé cette détention. Nous, aujourd'hui, on demande à la France d'intervenir parce que M. Paul Mayo est un citoyen français et donc la France doit le protéger comme elle protège l'ensemble de ses citoyens et appuyer auprès de Madagascar pour que cette décision soit respectée et que M. Paul Mayo soit libéré. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce que Madagascar va ou non respecter cette décision, étant préciser que s'ils ne le respectent pas, ils se mettent en violation, Madagascar se mettrait en violation de ses engagements internationaux et de ses obligations envers les Nations Unies.
Un des propos accueillis par Wely Diallo. Madagascar, où le camp présidentiel conserve la capitale, la commission électorale a publié hier soir les résultats provisoires des élections municipales à Antananarivo avec un peu plus de 43% des voix. Arilala Ramanantsoa devance largement le candidat du premier parti d'opposition, le Team Tojo Ravalo Manana. Nouveau succès donc pour le le chef de l'État, Andry Rajoelina, après sa victoire aux présidentielles de 2023 et aux législatives de mai dernier. Mayotte, toujours confrontée à un risque de pénurie une semaine après le passage dévastateur du cyclone Chido. Le bilan très provisoire est de 35 morts et de milliers de sinistrés. En visite sur l'île, le président Emmanuel Macron a promis hier le raccordement à venir d'une partie des habitations à l'eau courante. Et dans ce contexte, la lenteur de l'acheminement de l'aide en provenance des Comores voisines alimente les critiques. Le gouvernement accusé de traîner des pieds par une société civile qui ne cache pas son indignation. Les autorités promettent une intervention au cordon. Correspondance Abdallah Mzenbaba.
La frustration domine au sein de la société civile comorienne. Nadia Turki, membre du collectif Solidarité Chido, formé après le passage du cyclone, exprime l'exaspération de la population.
Je pense que si le gouvernement comorien n'a pas réagi jusqu'à présent, c'est qu'il doit y avoir d'autres blocages qui font qu'il n'a pas la marge de manœuvre pour réagir comme il se devrait. Pourquoi ne le fait-il pas? Je pense que c'est ça la question qu'on devrait se poser. Quels sont les blocages qui font que 6 jours après le drame, on soit encore à chercher où sont les secours et qui est responsable de ce secours?
Face à ces critiques, le gouvernement défend son approche. Homed Msédié, conseiller spécial du chef de l'État, affirme que des mesures concrètes sont en cours pour répondre à l'urgence.
Le gouvernement, au nom de Comoriens, va envoyer son assistance par l'intermédiaire d'une ONG qu'on appelle Uzuri Wadini. D'abord en commençant probablement aujourd'hui par une cargaison d'eau d'environ 10 000 cajots. La situation à Mayotte est catastrophique. C'est un drame national. Rien ne nous empêche d'assister nos frères et sœurs.
Le collectif Solidarité Chido se dit prêt à expédier des denrées essentielles, tandis que le gouvernement, sous l'impulsion du président Azali Assoumani, prône une action rapide mais concertée avec Mayotte. Abdelham Zembaba Moroni, RFI.
Et puis un mot de l'actualité en Afrique du Sud où le président Cyril Ramaphosa a signé une loi controversée sur l'enseignement des langues, un texte qui donne un droit de regard plus important au gouvernement sur les idiomes enseignés dans les écoles. Il devra désormais approuver la langue choisie par chaque établissement, une loi contestée par le principal allié de l'ANC au sein de la coalition gouvernementale. L'Alliance démocratique craint de voir l'enseignement des langues minoritaires dont l'Afrikaners disparaître des écoles. Voilà,